Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Je me rends compte qu'en presque 2 ans d'émission à propos d'astronomie, je ne vous ai pas encore parlé de l'une des plus grandes figures de l'astrophysique, celui qui a formalisé les grands principes de la mécanique classique, Sir Isaac Newton. Alors avant de vous parler de ses travaux sur la mécanique céleste, revenons un petit peu sur sa vie. Vous trouverez peut-être 2 dates de naissance pour Isaac Newton, car à cette époque-là, l'Angleterre n'avait pas encore adopté le calendrier grégorien. Alors vous trouverez soit la date du 25 décembre 1642 telle qu'elle a été enregistrée, soit la correspondance dans le calendrier grégorien, c'est-à-dire le 4 janvier 1643. Isaac est né au manoir de Woolstore, près de Grantham, dans le Lincolnshire, en Angleterre. Ses parents étaient fermiers. Sa venue au monde est mouvementée. Il naît 3 mois après la mort de son père, et de façon prématurée. Plus tard, sa mère lui racontera que personne ne pensait qu'il pourrait survivre. Sa constitution est si fragile qu'il aurait tenu, dit-elle, dans un cruchon. Et sa vie continue sur le même ton. Il a 3 ans lorsque sa mère, Anna Asco, se remarie avec Barnabas Smith, un pasteur âgé de 63 ans, économiquement aisé. Comme Barnabas ne veut pas s'occuper d'Isaac, celui-ci est laissé à la garde de ses grands-parents maternels, dont la famille, peuplée de gens d'église et d'universitaires, sera chargée de sa formation. Mais cette séparation suscite en lui un fort sentiment d'angoisse, d'agressivité et de peur, qui fait de lui un égocentrique précoce. Chaque fois que quelqu'un tentera de lui enlever ce qu'il estime être son bien, il répliquera avec une violence démesurée. Même s'il peut compter sur ses oncles, ses tantes, ses cousins, qui vivent dans les environs, il souffre d'une enfance solitaire, et cette souffrance contribue à son isolement. Il a 10 ans lorsque meurt son beau-père Barnabas. Sa mère revient alors à la maison familiale de Woolstrop avec 3 enfants qu'elle a eus du pasteur. À 12 ans, Newton est envoyé au collège de Grantham. Il ne prend pas sa scolarité très au sérieux, toujours assis au fond de la classe, jusqu'au jour où, en sortant du collège, il se bat avec un camarade 2 fois plus grand que lui et le terrasse. Non content de l'avoir mis à terre, il veut aussi le dominer intellectuellement. Et à partir de ce moment, il n'aura de cesse d'occuper la place de premier de la classe. Cette anecdote révèle un trait crucial de son caractère, le désir de l'emporter sur ses rivaux qu'il considère comme inférieurs. Il est logé chez le pharmacien Clark, ami de ses parents, et profite de la bibliothèque bien fournie en ouvrages scientifiques pour s'initier aux rudiments de la philosophie naturelle, c'est-à-dire les sciences physiques. Dans cette demeure, il y a aussi des cadrans solaires pour lesquels Newton affiche une véritable dévotion. Il va rester 4 ans au collège de Grantham jusqu'à ce que sa mère le rappelle à Woolstrop pour qu'il devienne fermier et qu'il commence à administrer son domaine. Fort heureusement, plusieurs personnes de son entourage s'aperçoivent que Newton n'est pas vraiment fait pour les travaux des champs et décèlent ses dons scientifiques. William Asco, le frère de sa mère, insiste pour qu'il continue ses études et qu'il aille plus tard à l'université. Son allié principal est le frère de Madame Clark, le pasteur Humphrey Babington, qui finira par nouer une étroite amitié avec Newton. Et enfin, son maître à Grantham, nommé Stokes, qui offre de payer lui-même les frais de scolarité et d'accueillir le jeune Newton chez lui jusqu'à la fin de sa formation. Après 1 an d'âpres négociations, sa mère accepte enfin que son fils reprenne ses études. Après avoir achevé sa formation scolaire, Newton s'inscrit à l'université. Il rentre à Cambridge, au Trinity College. À cette époque, les programmes des études sont fondés sur les humanités médiévales, auxquelles Newton ne s'intéresse pas beaucoup. D'après ses carnets, on sait qu'il n'achevait pas ses lectures obligatoires, qu'il en commençait d'autres, nettement plus contemporaines. Les références aux auteurs plus modernes abondent dans ses carnets. Descartes, Galilée, Robert Boyle. Il se comporte en autodidacte, en dévorant tout ce qui lui tombe sur la main. Il approfondit ce qui attire son attention et reproduit un certain nombre d'expériences. En un peu plus d'1 an, Newton a été capable d'assimiler par lui-même tous les fondements de l'analyse élaborée au XVIIe siècle. À partir de là, il suit son propre chemin, qui doit le mener à la découverte du calcul infinitésimal. En 1664, il écrit dans « Quelques questions philosophiques » « Platon est mon ami, Aristote est mon ami, mais ma meilleure amie, c'est la vérité ». À cette époque, la priorité de Newton, c'est de continuer ses études indéfiniment, la seule façon de combler sa soif de connaissances. Cette année-là, l'Angleterre subit une épidémie de peste noire, si bien que l'université ferme ses portes pendant l'été 1665 et renvoie les étudiants chez eux. Newton part donc pour Woolstrop. C'est là qu'il progresse fortement en mathématiques, en physique et surtout en optique. c'est en janvier 1666 qu'il fait ses premières expériences sur la lumière et sur sa décomposition. Au cours des années 1670 à 72, Newton étudie la réfraction de la lumière et montre qu'un prisme décompose la lumière blanche en un spectre de couleurs, et qu'un objectif avec un deuxième prisme recompose ce spectre multicolore en lumière blanche. Auparavant, on croyait que la diffraction de la lumière blanche en arc-en-ciel était due à de la couleur cachée dans le verre. Mais à la suite de ces expériences, Newton fait la conclusion révolutionnaire: la couleur est contenue dans la lumière et pas dans le verre. Ainsi, la lumière blanche que l'on voit est en réalité un mélange de couleurs de tout le spectre visible par l'œil. Il montre que la lumière colorée ne modifie pas ses propriétés par la séparation en faisceaux de couleurs, et note que, indépendamment de savoir si les faisceaux de lumière sont reflétés, dispersés, transmis, ils gardent toujours la même couleur, c'est-à-dire que la fréquence ne change pas d'un milieu à l'autre. Ainsi, il fait observer que la décomposition de la lumière blanche est le résultat de l'interaction avec les objets qu'elle traverse, qu'elle contient elle-même toutes les couleurs. En 1704, il fait publier son traité Optics, dans lequel figure sa théorie corpusculaire de la lumière, l'étude de la réfraction, de la diffraction et la théorie des couleurs. Il y démontre que la lumière blanche est formée de plusieurs couleurs et déclare qu'elle est composée de particules ou de corpuscules. À un autre endroit de son traité, il explique la diffraction de la lumière en l'associant à une onde. Mais cette explication est seulement une note de bas de page, et la plupart des gens retiendront que Newton est un adepte de la théorie corpusculaire de la lumière. Après avoir terminé ses travaux d'optique, il est contacté en 1684 par l'astronome britannique Edmond Halley, découvreur de la célèbre comète. Halley le contacte à propos des lois de Kepler et des orbites elliptiques des planètes. Newton répond de manière très convaincante et Halley le pousse à publier ses travaux, en finançant même la publication de l'ouvrage. Poussé par Halley, en 1787, il va publier son œuvre majeure, Principes mathématiques de la philosophie naturelle. Cette œuvre marque le début de la mathématique de la physique. En effet, Newton y expose le principe d'inertie, la proportionnalité des forces et des accélérations, l'égalité de l'action et de la réaction, la loi des chocs. Il y étudie les mouvements des fluides, les marées. Mais il expose aussi, et surtout, sa théorie de l'attraction universelle. Les corps s'attirent avec une force proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. La simplicité et l'efficacité de cette théorie aura une très forte influence sur les autres sciences du XVIIIe siècle. Alors revenons un petit peu sur cette explication de la théorie de Newton. La mécanique céleste de Newton, c'est une théorie fondamentale qui nous permet de comprendre les mouvements des objets dans l'espace, tels que les planètes, les étoiles, les comètes. Le principe fondamental de la mécanique céleste de Newton, c'est le concept de la gravitation universelle. Newton a observé que tout objet dans l'univers exerce une force d'attraction sur les autres objets. Cette force dépend de leur masse et de la distance par rapport l'un à l'autre. C'est comme si chaque objet se tirait mutuellement avec une force invisible. Par exemple, imaginez deux amis qui jouent à la corde. Chacun d'eux tient une extrémité. S'ils s'éloignent l'un de l'autre, la corde les attire l'un vers l'autre en les rapprochant. C'est un peu ce qui se passe entre deux objets massifs dans l'espace comme la Terre et la Lune ou la Terre et le Soleil. Newton a formulé une équation mathématique pour décrire cette force d'attraction entre deux objets. La loi de la gravitation universelle dit que la force d'attraction entre deux objets est directement proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Pour expliquer ça, prenons un exemple. Imaginez deux boules de pâte à modeler, chacune a une masse. Si vous les rapprochez l'une de l'autre, la force d'attraction entre elles augmente. Si vous les éloignez, la force diminue. En utilisant la gravitation universelle, Newton a également expliqué les mouvements des planètes autour du Soleil. Il a utilisé les travaux de Johannes Kepler qui avait observé que les planètes suivent des trajectoires elliptiques autour du Soleil. Les lois de Kepler étaient purement observationnelles, mais Newton va y apporter une explication mathématique. Grâce à la mécanique céleste de Newton, nous pouvons prédire les mouvements des planètes, des lunes, des comètes, avec une grande précision. Ça nous permet également de comprendre des phénomènes tels que les marées sur Terre, parce que la Lune va exercer une attraction sur les océans. Le principe fondamental de la dynamique, également appelé première loi de Newton, dit que tout objet reste au repos ou se déplace en ligne droite à une vitesse constante, sauf s'il est soumis à une force extérieure. Imaginez un ballon de plage, tant que personne ne le touche, il reste immobile. Ça, c'est un exemple d'objet au repos. Maintenant, prenez ce ballon et poussez-le une première fois doucement sur le sol. Si vous appliquez une petite force, le ballon se déplace à une vitesse constante dans la direction où vous l'avez poussé. Et ça, c'est un objet qui se déplace en ligne droite à vitesse constante. Mais alors pourquoi est-ce que les objets accélèrent ? Eh bien, c'est là qu'arrive le deuxième principe de la dynamique. Le deuxième principe de Newton dit que la force appliquée à un objet est égale à la masse de l'objet multipliée par son accélération. Alors en termes un peu plus simples, plus la force est grande, plus l'accélération, c'est-à-dire le changement de la vitesse, sera important. Et plus la masse de l'objet est grande, plus il faudra de force pour le faire accélérer. Un petit exemple, alors imaginez une petite voiture, un petit jouet. Si vous la poussez fort, la voiture accélérera très rapidement. Maintenant, vous allez prendre votre voiture, qui n'est pas un jouet, et vous allez y appliquer la même force. Il y a beaucoup de chances que la voiture ne bouge pas, tout simplement parce qu'elle a une masse plus importante. En résumé, le principe fondamental de la dynamique de Newton explique que les objets restent au repos ou en mouvement rectiligne et uniforme tant qu'aucune force n'agit sur eux. Alors évidemment, ce mouvement rectiligne et uniforme ne vaut que dans un endroit où il n'y aurait aucune force appliquée à l'objet, c'est-à-dire au centre de l'espace. Si vous faites rouler un ballon sur de l'herbe, il va finir par s'arrêter à cause des forces de frottement. Si vous jetez un ballon en l'air, il va finir par retomber sur la Terre à cause de la force de la gravité. Mais pour simplifier, lorsqu'une force est appliquée, l'objet accélère, et cette accélération dépend à la fois de la force appliquée et de la masse de l'objet. Ce sont des principes qui nous ont l'air évidents, mais ils sont essentiels pour comprendre comment les objets se déplacent et interagissent dans notre monde. C'est vers la fin de sa vie qu'est rapporté l'épisode de la pomme qui lui tombe sur la tête, lui révélant les lois de la gravitation universelle. Newton se demande, pourquoi cette pomme tombe-t-elle toujours perpendiculairement au sol ? Pourquoi ne tombe-t-elle pas de côté ou vers le haut, mais constamment vers le centre de la Terre ? Si la matière attire la matière, ce doit être en proportion de sa quantité. La pomme attire la Terre de la même façon que la Terre attire la pomme. Cette anecdote est difficile à situer d'un point de vue historique. Elle a été par la suite modifiée. Le pommier présumé est conservé religieusement au manoir de Woodthorpe. Mais cette anecdote confirme néanmoins que les exemples les plus simples sont aussi pédagogiquement les meilleurs.